fait de Jean-Marc alors qu'il partait donc en Suisse. Et puis, donc il disait, ben, voilà, si Anne-Marie ou toi, vous avez une parole à partager, bien avertissez Michel. Et puis, encore, voilà, juste avant de venir, je disais à Anne-Marie, voilà, moi, je pense pas demander à Michel, en fait, la place pour le matin. Et je disais, peut-être, Anne-Marie, voilà, toi, tu auras quelque chose, mais moi, non, je voyais pas. Mais, en fait, le titre de mon message, c'est « Tout est possible avec Dieu ». Et c'est justement ça, quand on était sur le chemin, bien, j'ai senti vraiment que le Seigneur m'interpellait par rapport à une parole. Voilà, par rapport à cette pensée que tout est possible avec Dieu, tout est possible pour Dieu. Et donc, j'ai appelé Michel il y a 2 jours de cela, et je lui ai dit, ben voilà, est-ce que c'est OK pour toi? Et Michel m'a dit, mais oui, bien sûr. Voilà, et j'aimerais juste qu'on passe quelques instants, qu'on prie, voilà, avant de partager cette parole. Seigneur, vraiment, nous te louons, Seigneur, ce matin, et te demandons vraiment que tu illumines nos cœurs et que tu conduises toutes choses dans ce temps de partage de ta parole, que nous puissions vraiment être réceptifs les uns et les autres à ton esprit. Amen. Voilà, et je m'appuie aussi sur ce verset qui se trouve à la fin du livre de Job, au chapitre 42 et le verset 2. Après tout ce parcours en fait, que Job a eu pendant tous ces chapitres, ces 42 chapitres, ces 41 chapitres, eh bien, il dit une chose qui, moi, vraiment me marque et m'interpelle. 42, verset 2, « Je sais que tout est possible pour toi et que pour toi, aucun projet n'est irréalisable. » Amen. Voilà. Pour ceux qui ont lu le livre de Job, eh bien, on comprend vraiment la portée de ce verset. Extraordinaire, après toutes les épreuves, tout. Et encore, quand Job prononce ces paroles, il est encore dans l'épreuve, même s'il a eu la révélation de Dieu juste avant, dans les chapitres qui ont précédé. Mais voilà, il est encore dans l'épreuve, il est encore entouré de ses charmants amis voilà, de ses fâcheux consolateurs, comme nous dit la Bible. Et voilà, il a tout ce contexte, en fait, et il dit, voilà, aucun projet pour toi, aucun projet n'est irréalisable. Amen. Alors, quelle parole d'encouragement pour nous ce matin, que de, voilà, de constater juste, et nous reviendrons sur la vie de Job, et de voir que sa conclusion, c'est celle-là. Voilà, gloire à Dieu. Alors, c'est vrai que les uns et les autres, et peut-être dans notre pays, nous vivons aussi des moments qui peuvent nous sembler compliqués, des moments d'épreuve. Et j'aimerais justement ce matin, sur ces deux plans, donc pour notre monde et puis pour notre vie personnelle, eh bien, remettre à Dieu et voir en quoi Dieu est notre espoir et notre espérance, quoi qu'il en soit. Amen. Alors, c'est vrai que quand on discute avec la jeunesse aujourd'hui, je ne parle pas de la jeunesse de l'Église ici parmi nous forcément, mais quand on entend un petit peu ce qui se passe dans la société aujourd'hui, est-ce que ça vous est arrivé déjà d'entendre des jeunes qui disent, mais voilà, on est marié ou on est en couple, mais finalement, est-ce qu'on va avoir des enfants? On n'est pas trop sûr parce que l'avenir est tellement incertain. Voilà, ça vous est arrivé d'entendre des personnes dire cela? Ouais, quelques-uns en tout cas, quelques-unes. Voilà, parce que en fait, nous vivons dans un monde où finalement beaucoup de choses ont l'air de se dégrader, en tout cas selon les informations qui nous sont données par certains experts, par certains médias. Et c'est vrai que, alors peut-être nous qui sommes un petit peu plus avancés en âge, bien on regarde les choses peut-être avec un peu plus de philosophie, quoique. Et pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vrai que, eh bien voilà, ce sont des informations qui les impactent de plein fouet. Et ils se disent, mais voilà, est-ce que nous allons avoir une vie meilleure que nos parents? Ce n'est pas sûr. Est-ce que vraiment nous voulons mettre au monde des enfants qui auront une vie on ne sait pas comment? Voilà, ce n'est pas non plus certain. Donc on voit vraiment en fait cette société avec un certain pessimisme qui est là. Et puis, c'est vrai, quand on regarde l'année qui vient de s'écouler, le contexte en fait un peu global, on a une guerre en fait juste aux portes de l'Europe avec l'Ukraine et la Russie. On en a une juste un tout petit peu plus loin avec Israël et puis la Palestine. On entend en fait parler des changements climatiques. Là, j'entendais en fait encore hier aux informations que dans l'Aude, il y avait des coupures d'eau donc chaque jour dans certains villages en fait sur une tranche horaire parce qu'il n'y avait plus d'eau. Alors que voilà, dans les latitudes un petit peu du nord, voilà telles que la Bretagne ou Paris, eh bien voilà, on est vraiment dans quelque chose où on a vu à peine le soleil pendant de nombreux mois. Voilà, beaucoup de choses, de dérèglements. Et voilà, on voit la situation politique aussi qui n'est pas évidente dans notre pays. Voilà, mais en fait, il est bon de nous rappeler que pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Et même si ce sont des situations peut-être qui nous interpellent parce que jamais rencontrées auparavant, voilà, et nous disons, mais comment les choses vont se passer? Mais voilà, Dieu est au contrôle. Et j'ai beaucoup été personnellement encouragé par une parole qui a été partagée donc début juin lors de l'assemblée plénière du CNEF par le président du CNEF justement. Et il est bon justement que ce type de parole soit portée par une telle institution. Il nous disait en fait en moins de 50 ans, il y a eu une évolution extrêmement rapide en France. On est passé en fait d'une société où quand même le christianisme, même s'il était synonyme en fait de catholicisme, était extrêmement présent dans notre pays. Il y avait quelque part en fait dans de nombreuses familles, voilà, ces références catholiques, en tout cas pour voilà pour ceux et celles qui sont issus de familles vraiment ancrées donc en France, en métropole. Et puis, voilà, bah, ces repères, quelque part, se sont effacés au cours de ces 50 dernières années. Et on arrive aujourd'hui dans un temps où finalement, eh bien, voilà, quels sont les repères de la société? On vient, je dirais, de plus en plus, en fait, sur des notions païennes, des sagesses, en fait, qui ne sont plus des sagesses. Les sagesses de la société, les sagesses humaines sont de moins en moins connectées avec des sagesses chrétiennes. Et on voit, je dirais, quand on parle de temps païen, eh bien, quand on parle de temps païen, même quand on fait référence un petit peu plus largement au Moyen-Âge, mais il y avait aussi, je dirais, tout le côté de cruauté, de sauvagerie, et aussi que l'on peut retrouver quelque part dans la société aujourd'hui. Donc il y a effectivement tout ce contexte, en fait, qui, en 50 ans, donc, c'est-à-dire très rapidement, a beaucoup évolué, et on passe, en fait, d'un temps de domination du catholicisme, du christianisme, en un temps finalement où eh bien, Dieu nous appelle à briller là où nous sommes, même si ce n'est pas naturellement, forcément, la référence du contexte social. Nous sommes passés en fait d'un état de domination à quelque part, un état de simple témoin. Voilà, nous sommes les agents secrets de Dieu dans la société. Et Dieu agit à travers nous. Mais en fait, la parole que nous partageait donc Erwan Clarec, c'était de dire, mais en fait, ce contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui n'est-il pas finalement semblable au contexte dans lequel Jésus est venu dans le monde? Et quand on regarde effectivement ce contexte-là, on se souvient, pour ceux qui ont, voilà, qui ont étudié un peu la Bible, que finalement, entre le dernier livre de l'Ancien Testament, le temps de révélation s'était arrêté pendant 400 ans. Pendant 4 siècles, il n'y avait pas, en tout cas, de relayé par l'Écriture, de prophète qui se soit adressé au peuple d'Israël. Vous imaginez, pendant 400 ans, nous sommes, je dirais, en tant qu'Église, eh bien, nous sommes dans une relation permanente avec Dieu. Eh bien, pendant 400 ans, dans l'Ancien Testament, pas de parole adressée par Dieu à son peuple. Vous imaginez, c'est quand même quelque chose de très fort. Donc, un temps, en fait, où ben, la place, justement, était laissée assez fortement, quand même, à ben, tout ce qui pouvait se pratiquer en termes de religion. Et quand on étudie un petit peu les sociétés, soit grecques, soit romaines, dès que vous allez, je ne sais pas, en Grèce, dès que vous allez à Rome, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a de nombreuses divinités qui étaient dans ces sociétés-là. voilà, les dieux grecs, voilà, quand on parle de Héraclès, quand on parle de Poséidon, quand on parle d'Aphrodite, enfin voilà, plein de déesses, de dieux, en fait, auxquels il y avait des cultes qui étaient rendus. Dans l'Empire romain, ben, c'était la même chose en réalité, hein, c'était Jupiter, c'était voilà, enfin tous les dieux les mêmes, mais avec des noms différents. Mais vous voyez, en fait, tout ce contexte vraiment qui était païen, avec beaucoup de divinités différentes. Quand on lit l'Ancien Testament, bien, on s'aperçoit aussi tous les dieux, Baal, etc., qui étaient aussi les divinités des dieux, des peuples, en fait, qui occupaient cette terre donc, d'Israël auparavant. À tel point que quand Paul arrive à Athènes, et on trouve ça en Acte 17, verset 22-23, au milieu de l'aéropage, Paul prend la parole et il s'adresse aux Athéniens. Il dit « Athéniens, je constate que vous êtes des gens extrêmement religieux. » Il prend les choses du bon côté. « En effet, tandis que je parcourais votre ville et que je regardais vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel portant à cette inscription « Au Dieu inconnu ». Et voilà, et donc il rebondit là-dessus, inspiré par l'esprit, en disant ben, « Eh bien, ceux que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. » Et donc c'est une manière d'approcher là, par rapport à Jésus-Christ. Donc voilà, il y a toutes ces divinités qui sont là, même ceux qu'on ne connaît pas et qu'on adore. Voilà, donc c'est vraiment ce contexte-là. Et en fait, dans ce contexte-là, quelle est la ressemblance avec le nôtre aujourd'hui ? Les gens sont... une des paroles que l'on entend aujourd'hui, c'est ben, la vérité, en fait, c'est ce qui me correspond. C'est, en fait, si ça me parle, ben oui, je valide ça. Si ça ne me parle pas, ben, voilà, je ne reconnais pas vraiment les choses. Donc, c'est vraiment pas de vérité universelle, mais vraiment un petit peu chacun a sa vérité, chacun pour soi. Donc, de nombreuses, en fait, manières de voir le monde aujourd'hui. Dans ce contexte-là, il y a 2000 ans, l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Amen. Et voilà, on croit vraiment qu'aujourd'hui, et c'était cette parole qui était apportée par Erwan Kloarek, eh bien que quelque part aussi, tout, je dirais, toute cette, voilà, cette dislocation de la société, ce manque de repères, eh bien quelque part aussi, c'est une autoroute pour l'Évangile aujourd'hui. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a toujours cette soif, ce vide qui est en forme de Dieu. Amen. Donc c'est, on le croit aussi vraiment dans les contextes qui semblent les plus incohérents, les plus difficiles, eh bien c'est là où on va aussi voir Dieu se glorifier. Amen. Donc c'est un temps d'opportunité, un temps de prière auquel en fait Dieu appelle son Église. Et j'aimerais juste rappeler aussi, dans l'Ancien Testament, vous savez, ce temps de déportation où la ville de Jérusalem avait été détruite. Et il y a cette parole magnifique du prophète Jérémie au chapitre 29, alors que chacun se disait, mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment encore de l'espoir en Israël ? Et voici ce que le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, déclare à tous ceux qu'il a fait exiler de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons pour vous y installer. Plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produiront. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour, ils aient des enfants. Devenez ainsi nombreux là-bas. Ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait exiler et priez pour elle, car votre prospérité dépend de la sienne. Amen. Planter, construire, avoir des enfants. Voilà le projet, en fait, je crois, auquel l'Éternel appelait le peuple d'Israël et auquel, eh bien, il continue de nous appeler aujourd'hui. Comme au temps de Jérémie, Dieu prépare un avenir pour le peuple de Dieu. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Amen, c'est notre espérance. et grandir en tant que peuple, être une bénédiction pour le pays dans lequel nous sommes. Je crois vraiment que c'est le projet de Dieu. Amen. Alors, voilà, on parlait d'une façon globale par rapport à notre pays, et bien sûr, ça nous touche aussi personnellement, mais j'aimerais que nous puissions aussi venir sur un plan plus personnel. Et c'est vrai que, voilà, avec Anne-Marie, nous faisons une lecture suivie de la parole de Dieu, et chaque été, mois d'août, le livre de vacances, c'est Job et Romains. Voilà, c'est peut-être pas forcément le livre qu'on emporte sur la plage, mais en tout cas, nous sommes marqués chaque été par ces versets. Et j'avoue que cette année, la lecture de Job m'a profondément marqué. Et j'aimerais simplement lire avec vous quelques versets. Quand on s'arrête sur ces versets, on s'aperçoit vraiment la profondeur de l'épreuve que traversait Job et la manière dont ça l'impactait personnellement. J'aimerais simplement lire dans Job, au chapitre 16, quelques versets qui montrent la profondeur de la tristesse qui était la sienne, la profondeur de l'épreuve dans laquelle il se trouvait. « Dans sa colère, Dieu a fait de moi la proie qu'il pourchasse. Il me montre des dents menaçantes. Lui, mon ennemi, il me transperce du regard. Les gens ouvrent la bouche contre moi. Ils me frappent aux joues en m'insultant. Ensemble, ils s'attroupent contre moi. Dieu m'a livré à des jeunes voyous. Entre les mains des méchants, il m'a jeté. J'étais tranquille quand il m'a brisé, saisi par la nuque et terrassé. Puis il m'a relevé pour faire de moi sa cible. Ses flèches volent tout autour de moi. Il transperce mes reins sans pitié et la bile de mon foie se répand sur terre. Je me suis mis un vêtement de deuil sur la peau. J'ai enfoncé mon front dans la poussière. À force de pleurer, j'ai les yeux tout rougis. Ils sont cernés d'ombre. » Voyez l'intensité de ces versets. On voit, en fait, quand il est question, voilà, il transperce mes reins sans pitié, la bile de mon foie se répand par terre. On voit vraiment que, voilà, c'est pas juste un petit truc, en fait, qu'il était en train de passer, mais on voit que ça l'impactait vraiment au plus profond de lui-même. On voit vraiment, en fait, comment là, eh bien, il parle même de symptômes physiques de cette épreuve, tellement c'était intense. Et puis, la manière, en fait, dont il vit cela, il s'est mis un vêtement de deuil sur la peau. C'est vraiment quelque chose qui le recouvre. Il a enfoncé son front dans la poussière. Il se couvre la tête. En fait, il n'en pleut plus. À force de pleurer, j'ai les yeux tout rougis. Ils sont cernés d'ombre. Et c'est vrai que parfois, l'épreuve est extrêmement intense. Et on peut aussi, quelque part, peut-être avoir des moments dans nos vies où nous pouvons finalement ne pas voir le jour et être vraiment entourés par cette épreuve qui est la nôtre, ne pas voir, l'aboutissement de la situation. Et on est tellement imprégné par l'épreuve que, finalement, on se dit, mais comment est-ce que je vais en sortir? Quel avenir pour moi? Et on voyait Job, en fait, sa situation, il avait tout perdu. Il était entouré par des amis qui n'étaient pas forcément les meilleurs du monde. Et voilà, quel avenir pouvait-il imaginer dans ce contexte-là? Je ne crois pas qu'il regardait vraiment à l'avenir, mais il était vraiment, en fait, dans l'intensité de cette épreuve. Et parfois, les épreuves, eh bien, nous enveloppent tellement que nous sommes juste dans l'intensité de l'épreuve. Hier soir, il nous est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Nous avions pris des billets, en fait, pour un concert, donc avec le Festival Interceltique de Lorient. Et puis, nous sommes allés en voiture. Et on savait que c'était compliqué de se stationner à Lorient. Donc je me suis dit, tiens, il y a un parking souterrain qui est ouvert. Je vais prendre une place dans ce parking. Il restait quelques places. Je me dis, parfait. Puis on marchera un petit peu et tout va bien. Et donc, je vais pour rentrer dans ce parking-là. Il y a justement une voiture qui s'engage. Voilà, je m'engage à la suite. Et puis, voilà, je vais dans le parking. Il n'y avait que 7 places, en fait, qui étaient là, et, enfin, qui étaient mentionnées, vous savez. Donc, voilà, il reste 7 places dans un parking, on le sait, quand on rentre. Et puis, j'arrive dans ce parking, et en fait, je me dis, mais c'est bizarre, il y a plus que 7 places. Parce qu'il y en avait une autre, il y en avait une autre. Et puis, on va un petit peu plus loin, et il y en avait encore. Bon, ok, je comprends pas trop, mais on laisse la voiture et puis on essaye de sortir. En fait, c'est très compliqué de sortir de ce parking-là. Il y a une issue de secours à un endroit, bon, ça donne pas grand-chose. Une issue de secours à un autre endroit, ça donne pas grand-chose non plus. Et puis finalement, on rencontre des personnes et puis on leur dit, mais comment est-ce qu'on sort de là? Donc, ils nous indiquent. Et finalement, on s'aperçoit que c'est un parking privé. Bon, ok, alors on comprend pas bien parce qu'en même temps on est rentré par une issue publique, on est dans un parking privé, bon, voilà, les gens nous disent, bah voilà, vous pouvez sortir par là. On cherche pas plus longtemps, et puis voilà, on va donc au concert. Et en même temps, avant d'aller au concert, je repasse devant l'entrée du parking, qui était un petit peu plus loin, et là je m'aperçois qu'en fait, il y avait deux entrées, il y en avait une pour le parking public et une pour le parking privé. Et en fait, moi, je m'étais engagé à la suite d'un autre véhicule dans le parking privé. Et quand je suis revenu pour voir ce parking privé, ben, il était bel et bien fermé. Et nous n'avions bien évidemment pas d'accès à ce parking privé. Donc, nous allons au concert parce que nous n'avons pas beaucoup de temps avant le concert. Et j'avoue que j'ai quand même été assez préoccupé pendant tout le concert par ce qui venait de nous arriver. Parce que je me dis, la voiture est dans un lieu, en fait, auquel nous ne pouvons pas accéder. Les clés de l'appartement sont bien évidemment dans la voiture à laquelle nous ne pouvons pas accéder. Dans quel drap est-ce que nous nous sommes mis? Et finalement, ça m'a fait penser à ce message ce matin en me disant, bon, certes, le concert était très chouette, mais en même temps, j'ai vécu ce concert d'une manière particulière en étant quelque part imbibé dans mes pensées et dans mes sentiments par cette épreuve. Et je crois que c'est... Voilà, c'est une illustration, donc bien évidemment pas. Voilà, on est là ce matin, voilà, c'est une illustration de la manière. Finalement, je me suis dit, mais vraiment, en fait, oui, quand on est dans une épreuve, bien finalement, on pense pas à grand chose d'autre que cette épreuve, et on se dit, mais comment allons-nous en sortir? Effectivement, pendant le concert, je me suis demandé un certain nombre de fois, comment est-ce que nous allons nous en sortir? Et puis à un moment, donc. Voilà, quasiment à la fin du concert, il faisait très chaud, nous sommes sortis avec Anne-Marie, nous sommes retournés vers ce parking qui était fermé, et puis ben, vous savez comment Dieu fait les choses, pile au moment où on arrive, il y a une voiture qui s'engouffre dans ce parking, et puis voilà, on peut rentrer dans le parking et sortir du parking en demandant bien gentiment à la personne qui venait de rentrer, de nous ouvrir, et voilà, tout semble tellement facile quand c'est Dieu qui fait les choses. Et dans les épreuves, je crois que quelque part, eh bien, c'est comme cela aussi. Nous pouvons être dans un temps d'épreuves, mais c'est tellement facile quand nous savons que Dieu est aux commandes. Amen. Parce que finalement, après être sorti de ce parking-là, bah, ça semblait tellement normal, finalement, ce qui s'était passé. Mais quand on réfléchit, ce n'était pas du tout normal. Voilà, et dans cette épreuve que Job a traversée, il y avait quand même plusieurs choses qui étaient... Très, voilà, il a gardé la foi tout au long de l'épreuve. Dans Job 19, verset 25, au cœur de l'épreuve, il dit « Je sais que mon défenseur est vivant et qu'en dernier, sur la poussière, il interviendra. » Et la foi de Job. « Lorsque ma peau me sera retirée moi-même, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, de mes propres yeux. Celui que je regarderai ne sera pas un étranger. » En moi, mon cœur s'épuise à attendre ce moment. Voilà, nous pouvons nous estimer dans l'incapacité de sortir des épreuves, mais Dieu est en capacité. Et quand on parlait tout à l'heure de notre pays, en fait, l'impact spirituel dans notre pays dépend aussi, bien évidemment, de la santé de l'Église. Et aujourd'hui, en France... nous ne pouvons pas dire, en fait, que nous sommes des chrétiens nombreux et que l'Église est en pleine santé. Quand je regarde, en fait, mes frères et sœurs à Paris, eh bien, beaucoup, en fait, ont des problèmes personnels nombreux et sont vraiment préoccupés par leurs problèmes personnels plutôt que par le témoignage et l'impact en fait que nous pourrions avoir en tant qu'Église dans la société. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Et Dieu utilise les choses faibles du monde pour se glorifier. Donc la bonne chose avec les épreuves, c'est qu'elles ne sont pas éternelles. Elles ont une fin. On ne sait pas forcément comment on va en sortir, comme moi hier du parking, mais Dieu est au contrôle. Job non plus ne savait pas. Mais une chose que l'on sait, c'est que Dieu est fidèle. Et c'est vraiment cela, en fait, notre espoir, et ce que je voudrais vous laisser ce matin, c'est vraiment que nous pouvons, en toutes choses et en toutes circonstances, quel que soit le sujet, et j'ai volontairement pris voilà, différents types de sujets, quel que soit le sujet dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, Dieu est fidèle. Dans Job, toujours au chapitre 42, à la fin donc du livre, une autre parole, un autre verset absolument extraordinaire qui nous est donné par Job, c'est « Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. » Amen. À la fin de l'épreuve, auparavant, il avait une expérience déjà, mais l'épreuve l'a rapproché de Dieu. Et à tel point cette épreuve l'a rapproché, qu'il dit « Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux, je t'ai vraiment expérimenté. J'ai vraiment compris voilà, qui tu étais d'une façon renouvelée. » Quand il dit « Je t'ai vu de mes yeux », c'est voilà, on sait qu'on ne voit pas Dieu tant qu'on n'est pas dans sa présence au ciel. Mais voilà, c'est tellement fort, en fait, cette expérience qu'il dit « Mais c'est comme si je t'avais vu de mes yeux. » Alors, il y a des choses, en fait, sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir. Et donc, à quoi bon nous en faire, quelque part? Donc ça, c'est assez facile de le dire. Mais de se rappeler que Dieu peut intervenir, justement, sur les choses sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir, nous, personnellement. Et il est fidèle. Alors, croyons. Ce matin, j'invite vraiment à croire, à ce que nous puissions croire ensemble et célébrer vraiment la fidélité de Dieu dans nos épreuves, dans ce pays dans lequel nous sommes. Sachons que Dieu peut intervenir, que c'est lui qui restaure, c'est lui qui restaure son Église, qui nous restaure en fait dans nos vies. Michel a mentionné ce matin en fait le témoignage extraordinaire de cette femme. Moi, je ne le connais pas, mais ce que tu as dit vraiment m'a interpellé. Dieu restaure des vies complètement brisées. Et Dieu restaure, même si aujourd'hui nous ne sommes pas complètement brisés parce que nous sommes sortis en fait des contextes dans lesquels nous étions, mais Dieu sait là où nous en sommes aujourd'hui. Et il peut restaurer, il restaure. Il peut le faire aussi pour notre pays. Amen. Il peut restaurer nos vies de manière à ce que il soit glorifié et que son Église, aussi ici en France, puisse vraiment être acteur de sa grâce. Amen. Voilà, je vous invite à prier juste quelques instants en conclusion de ce message. Seigneur, nous te louons, Seigneur, ce matin, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Et oui, nous pouvons nous tenir devant toi et vraiment être dans ce face-à-face avec toi. Et je vous invite ce matin, si il y a quelque chose dans votre vie, vous avez interpellé par rapport à ce message, eh bien de tout simplement remettre cette chose à Dieu et de dire, mais voilà, précisément dans ce domaine, Seigneur, je sais que tu es fidèle et je sais que tu peux intervenir. Prenons juste quelques instants dans la prière, peut-être les uns les autres, devant Dieu, tout simplement, et de lui dire ceci. Amen.
On va partager un temps autour du repas du Seigneur. On n'est pas très nombreux, on peut pousser les chaises, on va se retrouver autour de la table, comme ça chacun pourra servir l'autre, lui passer le pain et puis ses, voilà, ses petites coupoles de raisin. Donc je vous invite à vous approcher. Thank you.